La conférence que vous allez écouter a été donnée dans le cadre du cycle de formation Passeur d'hommes, dont le thème est « Comment être humain et devenir un véritable disciple missionnaire ?» Nous écoutons aujourd'hui l'intervention du frère Emmanuel Perrier, dominicain. Il a été enregistré à la paroisse du Christ-Roi à Toulouse le mardi 6 novembre. Son sujet « La loi et l'éthique, est-ce naturel ?»
Je vais d'abord regarder ce qu'il en est de la loi naturelle, ce qu'on peut dire de la loi naturelle. Et puis, ensuite, je verrai les difficultés actuelles que nous rencontrons. Et, pour finir, ce que l'avenir de la loi naturelle dans nos sociétés. Donc, tout d'abord, revenir à cette racine de la loi naturelle. Et pour, à titre de problématique initiale, je vais revenir à une phrase du pape Jean-Paul II dans l'encyclique Veritatis Splendor, début des années 90, et où il disait « Aujourd'hui, le problème fondamental de la morale est celui du rapport entre la liberté de l'homme et la loi de Dieu. En dernier ressort, il ajoutait, en dernier ressort, c'est le problème du rapport entre liberté et vérité. » Ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est que Jean-Paul II mettait en parallèle deux manières de présenter la question. D'un côté, le rapport entre liberté de l'homme et loi de Dieu. De l'autre, le rapport entre liberté et vérité. Et la clé de son raisonnement était de dire ces deux questions, liberté de l'homme, loi de Dieu, liberté, vérité, sont en fait les mêmes. Je cite encore Jean-Paul II. Selon la foi chrétienne et la doctrine de l'Église, seule la liberté qui se soumet à la vérité, voilà l'aspect de loi, seule la liberté qui se soumet à la vérité conduit la personne humaine à son vrai bien. Le bien de la personne est d'être dans la vérité et de faire la vérité. Par conséquent, Jean-Paul II nous plaçait face à un regard sur l'homme dans lequel l'homme a une faculté, la liberté, c'est-à-dire qu'il peut se mouvoir lui-même, il peut décider lui-même de ses actes, de ce qu'il veut faire. Et cette liberté, elle n'est vraiment humaine que si elle vise le bien de l'homme. Et ce bien de l'homme, il doit être mesuré par la vérité de l'homme, ce que Jean-Paul II appelle la vérité de l'homme, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être homme. Autrement dit, ma liberté, elle est faite pour devenir pleinement ce que je suis dans ma nature, à savoir être vraiment homme. Et cette vérité, lorsque je m'interroge sur ce qu'elle est et en vue de le devenir, elle est mon bien, elle est le bien de la personne. Et pour tout de suite écarter des mauvaises compréhensions, dans le bien de la personne, il y a deux aspects. Il y a un bien propre, par exemple, c'est mon bien d'apprendre à lire pour pouvoir échanger un certain nombre d'idées et de vérités dans la société. C'est aussi mon bien de pouvoir grandir avec des parents, parce que ça la fait partie de ma constitution psychologique, humaine, que d'avoir ce double référent. Mais ça n'est pas seulement un bien propre, le bien de la personne, c'est aussi le don de soi. Chez Jean-Paul II, ça s'exprime comme ça, le bien de se donner à d'autres. C'est en se donnant à d'autres que on trouve son propre bien. Le bien de l'homme est fait pour se donner et pas seulement pour absorber pour lui des biens. Et lorsque Jean-Paul II dit « L'homme, il est, par sa liberté, fait pour chercher le bien de sa personne » et que pour chercher ce bien de sa personne, il doit se demander quelle est la vérité de l'homme, Jean-Paul II dit « Cette vérité de l'homme à laquelle je dois obéir, c'est cela, la loi de Dieu. » Autrement dit, la liberté doit être dans la vérité, elle doit obéir à la vérité de l'homme, et à ce moment-là, j'accomplis la loi de Dieu. J'obéis à Dieu. Par conséquent, cette manière de présenter le rapport entre vérité et liberté implique que, dans ma vie quotidienne, lorsque je me pose la question de ce que je dois faire, ce que j'ai à faire, ce que j'ai envie de faire, je rapporte cette question à ce que je suis, à la vérité de ce que je suis, c'est-à-dire ce pourquoi je suis fait, le bien de ma personne. Cette manière de présenter la loi naturelle comme vérité de l'homme, vérité à laquelle on obéit pour trouver le bien de la personne, cette manière, en fait, elle peut se recommander de saint Paul. Saint Paul dit en effet dans l'Épître aux Romains, Romains 2, 14, « Quand les païens, qui sont privés de loi, de la loi révélée à Moïse, quand les païens privés de loi accomplissent naturellement les prescriptions de la loi, ces hommes, alors qu'ils ne possèdent pas de loi, se tiennent à eux-mêmes lieu de loi. » Prenons un exemple. Voici un païen qui n'a pas entendu le décalogue, qui n'a pas entendu qu'il ne faut pas tuer. Et ce païen a, dans sa réflexion sur ce que c'est qu'un homme, a établi, en regardant ce que c'est qu'un homme, qu'un homme, ça ne tue pas un autre homme. Eh bien, dit saint Paul, ce païen qui n'a pas connu la loi de Moïse, il la pratique, il pratique la loi de Dieu, alors même qu'il ne connaît pas la loi. Il se tient à lui-même de loi parce qu'il a réfléchi sur la vérité de l'homme, et donc il cherche le bien, et il cherche à agir conformément à cette vérité pour trouver le bien de sa personne. Mais on peut parler, par exemple, aussi de la règle d'or. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Voici une règle morale que l'on peut découvrir tout à fait par soi-même et par laquelle on va trouver le bien de la personne, à condition de lui obéir. Par conséquent, ce que nous dit saint Paul, c'est que cette loi naturelle, elle est inscrite en chaque homme, elle est, si l'on peut dire, à disposition en chaque homme dès lors qu'il réfléchit sur la vérité de l'homme et qu'il obéit à ce qu'il découvre. Mais, ce que nous dit aussi saint Paul, c'est que cette loi naturelle que l'homme découvre en cherchant la vérité de l'homme, eh bien, il peut l'entendre de manière directe, immédiate, dans la révélation, c'est-à-dire que, au lieu de longs efforts pendant sa vie à chercher la vérité de l'homme, il y a quelque chose qui est un raccourci, qui ne dispense pas de réfléchir, mais qui en tout cas aide dans la réflexion, qui est la révélation de la loi de Dieu. Donc, ce que nous trouvons dans cette réflexion sur la vérité de l'homme, c'est ce que Dieu est venu nous dire dans la révélation. Et si Dieu est venu nous le dire, c'est d'abord pour nous aider dans cette réflexion, mais aussi plus, de manière plus importante, parce que le péché obscurcit notre réflexion. Nous sommes très facilement tentés de suivre nos propres envies, nos propres désirs, et donc ça brouille notre réflexion. La recherche du bien de l'homme, du bien pour notre vie, la recherche de la vérité sur l'homme, elle est difficile, elle est ardue, et d'autant plus que le péché vient la rendre d'autant plus pénible et plus hasardeuse. Par conséquent, lorsque nous envisageons cette liberté de l'homme intérieur que nous avons face au bien de la personne que nous visons, eh bien, nous avons d'une part la raison humaine pour chercher ce bien, découvrir ce bien, le pratiquer, et nous avons l'aide de la révélation pour venir nous aider sur ce chemin et avoir une loi plus facile, plus d'accès pour la pratiquer. Je vais, pour synthétiser ce parcours, cette réflexion, reprendre la manière dont saint Thomas d'Aquin définit la loi naturelle. Voici ce qu'il dit. Puisque toutes choses dépendent de la providence de Dieu, eh bien, elles sont réglées et mesurées par la loi éternelle. Puisque toutes choses dépendent de la providence divine, elles sont réglées et mesurées par la loi éternelle. Il est en effet manifeste, poursuit-il, que toutes choses prennent part de quelque manière à la loi éternelle. Toutes choses prennent part de quelque manière à la loi éternelle. Comment ? En ce que, du fait que cette loi est imprimée dans les choses, elle possède toutes des inclinations vers leurs propres actes et vers leurs propres fins. Autrement dit, ce que Thomas nous explique, c'est que quand je regarde n'importe quelle chose du monde et que je regarde ses inclinations, ce vers quoi elle va lorsqu'elle est laissée à sa nature, lorsque sa nature s'exprime, eh bien je vois la loi éternelle de Dieu qui s'exprime dans cette manière, de cette inclination vers le bien ou vers la fin. Nous trouvons donc, nous avons donc de quoi lire en regardant le livre de la nature, nous avons de quoi voir comment Dieu imprime dans toute chose la loi qui les gouverne. Et cela, c'est la loi naturelle. Je prends quelques exemples. Exemple le plus fondamental de notre univers corporel, par exemple, les électrons sont portés à se répartir autour du noyau de l'atome. Je résume ici très vulgairement ce qu'on appelle le principe d'exclusion de Pauli. Les électrons, donc, ont une tendance naturelle à se répartir, et non pas à s'entasser ou à se confondre, à se répartir autour du noyau de l'atome. Cette inclination naturelle, elle est extrêmement importante parce que c'est elle qui fait la stabilité de nos atomes, qui constituent nos corps. Donc voici une première inclination naturelle. Deuxième inclination naturelle, les animaux inclinent naturellement vers leur conservation en cherchant de la nourriture. C'est quelque chose pour lequel il n'y a pas besoin de forcer un animal. Quand il a faim, il cherche à manger, il cherche sa nourriture. Pourquoi ? Pour conserver sa vie. Il y a une inclination naturelle à chercher de quoi conserver sa vie. Et on trouve aussi cette autre inclination de conservation dans l'animal, qui est l'inclination à se reproduire pour que l'espèce soit conservée. Voilà une autre inclination, inclination à se reproduire pour que l'espèce soit conservée. Voilà une autre expression de la loi naturelle de l'animal. Et puis l'homme. L'homme, inclination naturelle à vouloir le bien et à fuir le mal. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas de prise. Tout ce que je le veux parce que je le considère comme un bien. Et de la même, tout ce que je fuis, je le déserte par crainte du mal qu'il peut m'apporter. Donc voici ces inclinations naturelles et elles sont, nous dit saint Thomas, une impression de la loi éternelle dans les choses. Et en regardant la nature des choses, je peux donc regarder vers quoi elles tendent, quel est leur bien. Si j'applique ça à ma vie, se demander pourquoi suis-je fait, pourquoi, hein, pas pourquoi, pourquoi, en vue de quoi suis-je fait, ou se demander vers quoi mon humanité est-elle naturellement portée, ou se demander à quelles conditions serais-je heureux, voilà des manières, des questions qui reviennent toutes à la même chose, chercher la vérité de l'homme qu'est la loi naturelle. Et donc, chercher cette loi de Dieu sur l'homme qui fait la vérité de l'homme. Et il est clair que dans cette recherche, dès lors que je me pose ces questions, je deviens attentif à la révélation parce que la révélation me parle justement de ce genre de questions. Elle vient m'apporter des paroles qui justement éclairent mon chemin. À l'inverse, puisqu'il y a une vérité de l'homme, si l'homme s'en détourne, c'est-à-dire si l'homme agit, exerce sa liberté, non pas pour aller dans le sens de cette inclination vers le bien de sa personne, mais exerce sa liberté, au contraire, en ne pratiquant pas la loi naturelle, eh bien, il ira contre sa nature. Il va aller contre la vérité de ce qu'il est. Et s'il va contre la vérité de ce qu'il est, il fera premièrement son malheur, et deuxièmement, le malheur des autres. C'est cette ambivalence de la vérité face au bien de la personne que résume le livre du Deutéronome, Deutéronome 30. Vois, je te propose aujourd'hui ça veut dire là, maintenant tu te poses la question de ce que tu vas faire, ben c'est le moment de se poser cette question. Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Je te propose, c'est Dieu qui parle, hein, je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie. Et cette phrase, elle vient en conclusion de tout le rappel de la loi de Moïse. La loi de Moïse, si tu la pratiques, eh bien, tu verras le bonheur, parce que c'est la loi pour laquelle tu es faite. En revanche, si tu t'en écartes, tu trouveras le malheur et la mort. Nous venons donc de voir comment la tradition de l'Église présente, de manière résumée, mais présente la question de la loi naturelle. Comment Jean-Paul II présente la question de la loi naturelle pour aujourd'hui comme étant une nécessité obéir à la loi de Dieu, mais une nécessité qui consiste à obéir à la vérité de l'homme pour atteindre le bien de la personne. Je voudrais maintenant, dans un deuxième temps de ce propos, voir ce qu'il se passe lorsque les lois humaines se déconnectent de la loi de Dieu. Ou, je peux le dire autrement, lorsque les lois humaines ne respectent pas la vérité sur l'homme. Et je voudrais relever, je ne vais pas faire un panorama exhaustif, je vais me contenter de quelques petits coups de projecteur sur des phénomènes étranges. Premier phénomène étrange, nos sociétés libérales, c'est vraiment ainsi qu'elles se définissent et c'est, elles le sont. Pourquoi ? Parce qu'elles placent en leur centre la liberté de l'homme. Donc, nos sociétés libérales sont les plus normées de l'histoire humaine. C'est quand même étrange que nous soyons si attentifs, si exigeants à avoir des sociétés centrées sur la liberté humaine et à crouler sous les textes législatifs ou normatifs, quels qu'ils soient. On passe notre temps à suivre des règlements, des procédures, des lois, que ce soit dans, ici je parle dans la société, mais dans le travail tout simplement aussi. Deuxième phénomène étrange. Nos sociétés hyper technologiques, c'est-à-dire ayant développé une maîtrise inégalée des lois de la nature, nous nous servons en permanence des lois de la nature pour fabriquer notre technologie. Donc nos sociétés technologiques sont les plus réfractaires à l'idée de loi naturelle. C'est curieux quand même qu'on soit si puissant, si efficace, si pertinent et si bon connaisseur des lois de la nature et que nous-mêmes, nous refusions à nous-mêmes l'idée qu'on aurait une loi, une nature qui s'imposerait à nous. Troisième phénomène étrange, nos sociétés engagées dans la mondialisation depuis maintenant 5 ou 6 siècles, c'est-à-dire dans un mouvement profond d'universalisation, nous pensons universel, nous aimons l'universel, eh bien, ces sociétés qui tendent vers la mondialisation sont moralement les plus relativistes. C'est-à-dire que l'universel que nous cherchons semble aboutir à une atomisation des valeurs, une atomisation des pensées, à l'affirmation que tout se vaut. Tout est équivalent. Et si tout est équivalent, enfin, tout se vaut, à ce moment-là, il n'y a plus de nature humaine commune, puisqu'on peut vouloir une chose et son contraire sans contradiction. À ce moment-là, il n'y a plus de nature humaine. Donc, où est l'universel ? Autrement dit, je reprends ces trois phénomènes étranges et j'essaye d'en cerner un petit peu le cœur. Premier phénomène, donc, société libérale hyper normative. Ce que ça nous révèle, c'est que la liberté qui cherche à s'établir elle-même s'abolit elle-même. La liberté, quand elle cherche à s'établir elle-même, finit par s'autodétruire, s'abolir elle-même, parce que, n'ayant pas de fondement dans la vérité, n'obéissant pas à quelque chose, elle n'est plus mesurée ni réglée par rien d'autre que elle-même, c'est-à-dire par de l'arbitraire. Deuxième situation, c'est deuxième phénomène étrange, c'est société technologique abusant des lois de la nature, enfin usant au maximum des lois de la nature, et qui refuse l'idée de loi naturelle. Eh bien, on voit ici une opposition entre le monde de la loi, c'est-à-dire celui de la nature autour de nous, tout obéit autour de nous à des lois de la nature au sens. Mais en revanche, l'homme, lui, se sépare du monde en ce qu'il est libre et donc radicalement différent par rapport au reste du monde. Aux choses qui n'ont pas de liberté, les lois, à l'homme, la liberté, sans loi, sans autre loi que celle qu'il veut instaurer, évidemment. Ce n'est pas sans loi en général, mais sans autre loi que celle qu'il veut instaurer. Et cette opposition, nous la voyons aujourd'hui produire son fruit, qui est dans le sentiment écologique, le souci écologique qui s'est fait jour ces dernières décennies, nous le voyons comme une opposition entre ceux qui militent pour continuer de soumettre les choses, la nature, au vouloir de l'homme, sans fin, jusqu'à épuisement de toute ressource, et les autres qui, au contraire, en viennent à dire, eh bien, l'homme, c'est lui le problème de la nature, parce que c'est à cause de lui que viennent tous les déséquilibres de la nature. Et on voit cette opposition entre le monde, la nature, pardon, et nous, et l'homme, comme si c'était deux univers séparés. Comme si nous n'habitions pas ce monde. Comme si notre liberté faisait de nous des extraterrestres ou des hors de l'univers. C'est très intéressant de voir la manière dont nous n'habitons plus le monde parce que nous nous pensons complètement à part du monde. Troisième phénomène étrange, celui de la mondialisation qui va de pair avec le relativisme, eh bien, on s'aperçoit que, en fait, on visait une éthique universelle. On a cru un moment que cette éthique universelle tiendrait en gros dans les droits de l'homme, au tournant des années juste après la guerre, charte de l'ONU. Et en réalité, on s'aperçoit que, aujourd'hui, ces chartes éthiques universelles sont essentiellement des fictions. C'est-à-dire qu'elles n'obligent en réalité personne, et surtout, elles sont actuellement manipulées les unes après les autres pour les dissoudre, en dissoudre tout le contenu qui nous obligeait. On s'était donné, et c'est pas pour rien, parce qu'en réalité, derrière, par exemple, la charte de l'ONU, il y avait notamment des chrétiens comme Jacques Maritain, qui visait justement à mettre dans cette charte des biens naturels, de la loi naturelle. Mais justement, 70 ans après, on s'aperçoit que toutes ces valeurs, on va dire, cette éthique universelle qu'on s'était donnée, en fait, petit à petit, on la dissout, on la rend purement fictive. Ceci me conduit donc à quelques constats sur ce qu'il se passe dans les lois humaines lorsque elles se déconnectent de la loi de Dieu. Premier constat, c'est que une loi humaine que l'homme se donne en s'étant déconnecté de la loi de Dieu, c'est-à-dire en ne cherchant plus la vérité sur l'homme ou sur le monde, eh bien, cette loi tend à se multiplier sans fin jusqu'à perdre sa cohérence, son autorité, son efficacité. J'ai un passé de juriste et lorsque vous comparez les juristes n'ont cessé de s'en plaindre, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, je pense que beaucoup ont abandonné ou n'ont même plus en vue cet âge d'or, mais lorsqu'on regardait la manière dont les codes, dont les lois, les textes anciens étaient rédigés, c'était toujours des textes extrêmement ciselés qui contenaient en eux, en fait, l'application à une multiplicité de cas. On réglait par un petit texte, en fait, énormément de choses de la vie sociale. Aujourd'hui, au contraire, la loi s'est multipliée à l'infini, au point que même les députés qui la font ne savent plus s'y retrouver et que, dans quasiment tous les textes de loi, on adopte des lois qui contredisent d'autres textes parce qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on les avait oubliés et qu'il y avait d'autres, ou que ça avait des conséquences parce que c'est devenu tellement complexe. Et à force de multiplier ces normes, eh bien en réalité, on les rend inopérantes. Si vous voulez, on le voit la même chose, alors, parce que c'est du même ordre, on voit la même chose du point de vue de la parole. Une société qui perd foi dans la loi, c'est une société, c'est-à-dire qui, dans laquelle les lois perdent leur signification, leur autorité, leur cohérence, ça va de pair avec une société dans laquelle la parole elle-même devient profuse, bavarde, dans lequel on dit tout et son contraire, dans lequel la parole n'engage pas, et dans lequel finalement, aujourd'hui, aujourd'hui, on en est à gérer des éléments de communication. Il ne s'agit même plus de dire le réel, il ne s'agit même plus d'expliquer des choses. Il s'agit d'imprimer dans la tête de ceux qui les entendent une espèce de message subliminal, soit ça va bien, soit ça va mal, soit c'est le bien, soit c'est le mal, etc. Donc il y a la parole, en fait, se discrédite, se disqualifie, et on parle pour ne rien dire. Donc, premier aspect qui est cette autodestruction des systèmes législatifs. Ils sont en train de s'écrouler sous leur poids. Deuxièmement, la déconnexion de la loi humaine de la loi de Dieu rend l'homme étranger, non seulement à Dieu, mais aussi au monde qui l'entoure et à lui-même. Lorsqu'on arrête de, par exemple, de dire essayons de caler un peu nos lois sur le décalogue, même si on ne croit pas en Dieu, on peut reconnaître quand même là des éléments de loi naturelle qui valent pour tous, pour tous les temps. Donc même lorsque on abandonne même cette petite référence, au moins cette question, on se laisse questionner par ces textes, eh bien, non seulement, évidemment, on perd notre rapport à Dieu, mais aussi au monde et aussi aux autres. Les lois humaines ne savent plus, aujourd'hui, établir ce qu'il en est d'un rapport au monde et d'un rapport aux autres juste, équilibré, harmonieux. C'est tout sous le mode du conflit. Troisièmement, la déconnexion de la loi humaine de la loi de Dieu conduit même à déconstruire les sociétés. C'est le phénomène peut-être le plus flagrant, le plus frappant de ces dernières 20 années, 25 années, c'est l'accélération de la déconstruction des piliers même de ce qui avait fait notre société. La loi humaine est comme une espèce de poule sans tête qui court sans trop savoir où elle va. Et le problème, c'est que quand on court sans savoir où on va, eh bien, on ne construit pas. Une société, elle est toujours sommée de se réformer, de se relancer, de se revitaliser, parce que l'homme la tire vers le bas par ses péchés, mais en revanche, il peut la tirer vers le haut s'il sort de lui-même et qu'ici, à nouveau, il repose les questions fondamentales. Et il faut qu'à chaque génération, chaque société se repose des questions fondamentales et qu'elle y réponde dans le bon sens, dans le sens qui va construire l'avenir, Or aujourd'hui, c'est l'inverse que nous voyons. Nos sociétés font des lois qui ne pensent même plus à l'avenir. Sinon, effectivement, peut-être l'avenir des retraites. Enfin, en général, les lois prévoient pour les 5 années suivantes. Hein, c'est pas en attendant la réforme suivante. Alors, ce bilan, cette déconnexion entre les lois humaines de nos sociétés actuelles et la loi de Dieu, d'où vient-elle ? D'où vient-elle ? Je ne veux pas vous embarquer dans une histoire trop longue, et je vais donc m'en tenir à un aperçu très rapide, mais juste pour vous faire saisir un point central pour la suite du propos. Je reviens à cette phrase de Jean-Paul II qui m'a servi d'introduction. Jean-Paul II disait « Aujourd'hui, le problème moral fondamental est celui du rapport entre la liberté de l'homme et la loi de Dieu. Et en dernier ressort, c'est le problème du rapport entre liberté et vérité. » Et je vous ai dit que, en fait, donc, ce qui était la perspective de Jean-Paul II, c'est de dire « L'homme est libre et il est fait pour un bien, et pour atteindre le bien de sa personne, il doit obéir à la vérité de ce qu'est l'homme. » Et cela, c'est la loi naturelle. Or, ce que fait Jean-Paul II dans ce texte, c'est reprendre la conception, on va dire, la plus acceptée dans l'histoire de l'Église de la loi naturelle, celle qui vient même des païens, puisque elle s'origine au départ chez Cicéron, et elle avait été reprise donc notamment par saint Thomas. Et je vous ai parlé de saint Thomas. Pour saint Thomas d'Aquin, la loi naturelle, c'est régler sa liberté sur la vérité de l'homme. Et quand je règle ma liberté sur la vérité de l'homme, c'est alors que j'obéis à la loi de Dieu. Et inversement, lorsque j'écoute la loi de Dieu, lorsque j'écoute la révélation, ce n'est pas la seule chose que la révélation m'apprend, mais la révélation m'apprend notamment à régler ma liberté selon la loi naturelle, selon la vérité de l'homme. Puisque la loi de Dieu me conduit au bien, au bonheur, à la béatitude. Et donc, pour saint Thomas, il y a une loi naturelle. Il se trouve que, au même moment que saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire au XIIIe siècle, il y a des courants évangéliques qui, à la fois, sont très vibrants de l'évangélisme chrétien, de la radicalité évangélique, mais qui sont aussi assez radicaux pour avoir un regard sur le monde, sur la nature, sur tout ce qui est des médiations créées, de tout ce à quoi, sur cette terre, on peut se confier, qui ont un regard assez pessimiste. Et parmi ceux-ci, un théologien qui se trouve être franciscain et anglais, Jean Duns-Scott, va avoir un enseignement qui va jouer un rôle très important pour, je dirais, qui va au bout du compte saper l'idée même de loi naturelle. Que dit ce théologien franciscain ? Il dit que le propos de l'homme n'est pas d'obéir à la vérité sur l'homme, c'est d'obéir à la loi. Pourquoi ? Parce que c'est la loi qui compte. Peu importe que cette loi apporte la bonté, le bonheur ou le malheur. Ce qui compte, c'est d'obéir à Dieu. Voilà le primat. Obéir à Dieu, c'est cela, le chemin de la sainteté. Et ceci a une conséquence qui est que, finalement, cette loi, elle peut-être nous dire quelque chose de la vérité dans l'homme, de la vérité de l'homme, mais ça n'est pas son propos. Cette loi de Dieu, elle est là simplement pour nous dire ce qu'il faut faire. Il faut obéir à la loi. Et donc, Duns Scott dira, oui, il y a eu une loi naturelle au départ, parce qu'au départ, effectivement, l'homme, en suivant sa nature, en connaissant la vérité de sa nature, effectivement, obéissait à Dieu. Mais cela, c'était au paradis. Depuis, il y a le péché. Et donc, l'homme ne peut pas, ou plus exactement, la loi de Dieu a évolué, elle s'est adaptée au péché, et désormais, ça n'est plus le régime de la loi naturelle sous lequel nous sommes, c'est le régime de la loi de l'Évangile. Et donc, si je reprends le texte de Jean-Paul II, qu'est-ce que nous dit Duns Scott, finalement ? Il nous dit, lorsque Jean-Paul II dit « Le problème fondamental de la morale, c'est le rapport entre la liberté de l'homme et la loi de Dieu », Duns Scott dit « Exactement, c'est ça le problème ». Et lorsque Jean-Paul II rajoute, en définitive, en dernier ressort, ce problème du rapport entre liberté de l'homme et loi divine, ça n'est rien d'autre que le problème du rapport entre liberté et vérité. Là, Duns Scott dit non. Non. Ça n'est pas le problème du rapport entre liberté et vérité. Le seul problème moral, c'est est-ce que j'obéis à Dieu ? Et cette manière de considérer la loi divine comme étant d'abord une obligation, c'est ça ce qui compte dans la loi de Dieu, c'est l'obligation, eh bien, elle va conduire à laisser de côté tout ce qui est de la question de la vérité de l'homme, ou, si vous voulez, du bien de la personne. Lorsque j'obéis à Dieu, je n'obéis pas pour être heureux, j'obéis à Dieu pour obéir à Dieu. C'est ça qui compte. De sorte que l'homme n'est plus en train d'obéir à la loi de Dieu pour se tourner, pour chercher le bien de sa personne, mais il est placé face au commandement de Dieu et il répond à ce commandement par la liberté qui est indépendante de la nature et qui est faite pour aimer. La liberté va être la condition de l'amour de Dieu en réponse au commandement de Dieu. Donc c'est une spiritualité à la fois de l'amour, mais de l'amour dans lequel, de l'amour de Dieu, par-dessus tout, et même exclusif, mais c'est une spiritualité qui aussi a comme conséquence grave de détacher toute la vie morale du rapport à la fin de l'homme, ce pourquoi l'homme est fait. Je tire quelques conséquences de cette rupture qui s'introduit dans la réflexion chrétienne. Premièrement, la loi va consister essentiellement dans une obligation. Ce qui compte dans la loi, c'est qu'elle oblige, c'est qu'elle s'impose à ma liberté. Et donc, l'aspect qui auparavant était essentiel dans la loi, c'est-à-dire elle se présente à notre raison pour nous montrer le chemin, pour nous guider, cela est abandonné. La loi ne s'adresse pas d'abord à la raison, mais à la volonté. Elle est là pour s'imposer à la volonté. Deuxième propriété de cette loi, la loi, elle est indépendante de la fin de l'homme. Ça ne veut pas dire que la fin de l'homme n'a plus d'intérêt, ce pourquoi on est fait, etc. Mais ce n'est pas la question. La loi, elle est indépendante de la fin de l'homme. Si vous voulez avoir une réflexion sur ce vers quoi vous devez agir, ce vers quoi vous voulez aller, ce sera une question de morale. Mais ici, nous sommes dans le légal. Début de la séparation du légal et du moral. Troisième point, il suffit que l'autorité soit légitime pour que la loi soit juste, quel que soit ce qu'elle dit, ce qu'elle édicte. Peu importe même qu'elle soit conforme à la vérité de l'homme. Si je prends une application actuelle, le raisonnement c'est, puisque le gouvernement est démocratique, élu démocratiquement, il a l'autorité légitime, tout ce qu'il décide à force de loi, et il ne peut y avoir aucune dérogation ni aucune dispense. Le peuple a décidé. Quatrièmement, on doit obéir aux lois en vigueur dans le domaine où elles s'imposent. Par exemple, il n'est plus question pour nous d'obéir à la loi de Moïse. Ça n'est plus la loi sous laquelle nous vivons, mais nous vivons sous la loi de l'Évangile. Et par conséquent, on a une distinction dans le temps, les lois se succèdent, et l'une chasse l'autre. D'autre part, une loi ne s'applique qu'en fonction de l'autorité légitime, et donc il va y avoir un domaine des lois de Dieu, ce que Dieu édicte pour le domaine spirituel, et puis d'autre part, il y aura ce que les hommes édictent pour le domaine temporel. Par conséquent, on aura une séparation des lois entre la loi du politique et la loi pour, on va dire, l'individu, pour les convictions personnelles, pour le privé. Coupure du privé et du public. J'en viens maintenant à ma conclusion sous forme de quatre petits mots d'ordre. Premier mot d'ordre, la loi naturelle n'est pas en option. On peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, mais ça ne changera rien au fait que notre nature, elle est ce qu'elle est. Et même si je dis ma nature n'existe pas, je n'ai pas de nature, ben je continue d'en avoir une quand même. Comme de même que celui qui dit ben Dieu n'existe pas, ça n'empêche pas Dieu d'exister. Hein. Et donc, le rappel de l'existence de la loi naturelle ne consiste pas à défendre une option philosophique parmi d'autres, mais à rappeler que la nature humaine n'est pas une option. Et parce que la loi naturelle n'est pas une option, c'est du reste la seule explication possible au désaccord moral entre tous les autres systèmes. Parce que tous les autres systèmes moraux ont ce petit inconvénient de dire voilà ce qu'il faut, comment il faut raisonner en morale, voilà ce qu'il faut faire, mais ils ne peuvent pas rendre compte du fait que 90% des hommes ne pensent pas comme ce système-là. La loi naturelle, elle explique très bien cela. Il est difficile de trouver le bien de l'homme, de connaître la vérité sur l'homme. On peut se tromper. C'est une œuvre compliquée. Il est normal qu'il y ait des systèmes philosophiques différents et divergents. Dernier point sur cette première conclusion. La loi naturelle se vérifie par l'échec et par l'expérience de l'échec lorsqu'on s'en écarte. C'est-à-dire que le fait que la loi naturelle n'est pas une option implique que quand on ne la respecte pas, il y a un jour où on le paye. Et il suffit de regarder nos sociétés actuelles, où elles vont, oublient de la loi naturelle, eh bien, ça se voit très très vite. Ça fait très mal. Deuxième conclusion. Toute loi s'apprécie selon la fin. La loi naturelle, elle se découvre en posant les questions « Quel est mon bien ? Quel est notre bien commun ? Pourquoi devons-nous agir ? Qu'est-ce qui en vaut la peine ? Et qu'est-ce qui est conforme à la vérité de l'homme ?» Et de même, la conformité de toute loi à la loi naturelle s'apprécie à partir de cette question du bien de l'homme et du bien commun des sociétés. Par conséquent, toute loi, même les plus techniques que nous adoptons aujourd'hui, toute loi est un principe moral. Il n'y a pas de séparation du légal et du moral. Parce qu'en réalité, toute loi va guider mon agir et va m'assigner des fins de mon agir. Troisième conclusion. La recherche du bien. La connaissance de la loi naturelle suppose une sagesse à la fois personnelle, on tire profit de l'expérience de la vie, on tire profit de notre connaissance des situations pour savoir ce qu'est la vérité sur l'homme. Mais aussi, heureusement, qu'on a l'aide de toute une culture. C'est une recherche commune. C'est justement en s'appuyant sur des générations, l'expérience des générations, que la vérité sur l'homme nous apparaît. Il y a des chemins qu'il ne faut pas prendre. Nous avons fait, par exemple, au XXe siècle, l'expérience que il y a un chemin qu'il ne faut pas prendre, c'est celui du nationalisme exacerbé. Hein ? Tout réduire à la nation, eh ben, on a fait une expérience cuisante, parce que quand même ça a coûté quelques dizaines ou centaines de millions de morts, on a fait une expérience cuisante qui est, ça coûte cher humainement que de tout soumettre à la nation. Et donc il faut réfléchir, il faut réfléchir. Et dans cette réflexion, la révélation est une aide indispensable, elle se révèle indispensable, parce qu'elle nous fait gagner beaucoup de temps pour éviter les erreurs. Et du reste, il n'y a pas besoin de croire en Dieu pour chercher la vérité de l'homme. Mais toute recherche de la vérité de l'homme est une recherche de Dieu. Toute personne qui commence à s'intéresser aux fins est en train de chercher la loi éternelle et de connaître la loi éternelle. Enfin, dernier point, l'adoration de Dieu fait partie de la loi naturelle et en est même, comme nous le dit le Décalogue, la clé de voûte, parce que Dieu est la fin ultime de l'homme. Enfin, en forme d'ouverture, quatrième conclusion, la loi naturelle est naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que elle demande pour qu'on la retrouve, non pas des études énormes, non pas de changer de système philosophique, non pas de changer complètement de vie. Elle demande une seule chose, c'est que la liberté arrête de croire qu'elle fonde toute valeur, toute norme. Que la liberté est un absolu que rien ne précède. Parce que dès lors que la liberté abandonne cette prétention, à ce moment-là, redevient cruciale pour elle la question de la fin. Quel est le bien de la personne, de ma personne ? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Et donc une société qui a quitté les chemins de la loi naturelle, qui s'égare loin de la loi naturelle, peut retrouver très vite une vitalité dès lors que l'expérience de la vie lui montre qu'elle n'est pas la créatrice de sa nature. Alors aujourd'hui, on est en plein encore dans cette illusion. L'homme crée, y compris, et va changer sa nature. Mais il va falloir encore un petit peu d'expérience douloureuse pour s'apercevoir que ça ne marche pas. Mais en tout cas, dès que ça ne marche plus, dès qu'on s'aperçoit que ça ne marche plus, la liberté, la loi naturelle, la question de la loi naturelle, renaît toute seule. Merci.